France Culture.
Bonjour le Book Club.
Bonjour Sandro Veronesi. Je n'ai pas manqué de lire votre dernier roman. Je peux vous dire qu'une fois de plus, j'ai adoré. C'est un immense coup de cœur. Et j'ai retrouvé tout ce qui fait la magie de vos livres et de votre écriture. Septembre noir, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais j'avoue que ce n'était pas celui que j'imaginais.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Été 1972, station balnéaire en Toscane, une famille, un ado, du bateau, le renversement du cœur, du corps, le plaisir des mots et les Jeux Olympiques de Munich à la radio. Dans son dernier roman, Sandro Veronesi construit en une double temporalité le présent de l'expérience infantile et celui de son souvenir, ce que l'on peut appeler une sortie de l'innocence. Un été suffit parfois à créer un bon gros carambolage de vie, du désir, des mots, de la politique, des relations filiales et l'irruption violente de la mort. Mais de cette remémoration, le narrateur tire la matière d'une renaissance. Voir plus que savoir qui l'on a été offre ici un peu plus de vie. Sandro Veronesi, figure majeure du roman contemporain italien, fait paraître Septembre Noir aux éditions Grasset. Il est de passage à Paris, il est notre invité. Enfin, et comme chaque jour, on cherchera de la musique dans les livres. Et celui-ci n'en manque pas. Nous sommes ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Septembre Noir, donc, c'est le titre français de votre livre Sandro Veronesi. Il paraît ces jours-ci aux éditions Grasset, dans la traduction de Dominique Vitoz, après avoir paru en Italie en 2024. Bienvenue dans le Book Club.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir. Vous êtes de passage à Paris. Vous avez galéré à prendre votre billet retour pour retourner en Italie, mais maintenant, c'est sûr que vous repartez demain, en tout cas.
Oui, demain.
Voilà, normalement, ça a fonctionné. Vous serez ce soir à la Maison de la Poésie à Paris à 19h pour une rencontre à propos de votre ouvrage Septembre Noir chez Grasset. Ici, au Book Club, on commence toujours par une sorte de portrait de lecteur. On fait un questionnaire lecture pour d'abord faire connaissance avec nos invités en parlant de leur rapport au livre. Peut-être on peut s'appuyer sur le fait qu'il y a quelque chose qui revient régulièrement dans vos livres et qui témoigne de vous en tant que lecteur. Sandro Veronesi, c'est une phrase de Beckett. Et peut-être on peut commencer par parler de votre rapport à Samuel Beckett pour faire un portrait de vous en tant que lecteur. Déjà, dites-nous qu'est-ce qui vous lie à cette phrase de Beckett et qu'est-ce qui vous lie de manière générale à l'œuvre de Beckett en tant que lecteur.
Bon, récemment, mon assistant a retrouvé le premier nouvelle, récit que j'écris à l'âge de 24 ans, que c'était pas mal, mais c'était vraiment Beckettien. Vraiment, vraiment. J'avais pas la distance. Beckett, c'était mon Dieu. Alors j'avais écrit cette petite histoire, mais c'était pas une imitation, mais il y avait l'influence.
Mais parce que vous le lisiez beaucoup dans votre
Oui, je le lisais, mais c'est pas seulement question de lire. Beckett, c'est un virus. C'est quelque chose qui commence à travailler dans ta vie. Bien sûr, si c'est pas possible d'être comme lui, l'héroïsme de son écriture, de sa vie, les choses qu'il a dit, récemment j'ai lu les lettres, et ce sont des œuvres, ce sont toujours, il est toujours mon Dieu maintenant, mais maintenant je suis capable de tenir la distance. À cette époque-là, j'étais vraiment son fils, et je l'admirais tellement.
Comment vous avez rencontré Beckett sur votre chemin?
Mais ça a été une jeune fille que j'aimais à l'époque qui m'a donné des poésies. Des poésies écrites en anglais, qui sont très bien.
Oui, les sonnets qu'on peut lire. Ouais.
Et alors, j'ai commencé à lire. Et je n'ai pas commencé par les grands Beckett en français. J'ai commencé par les jeunes Beckett en anglais. J'ai lu Murphy et l'autre roman qu'il a écrit en anglais, je l'ai aimé beaucoup, tandis que je savais qu'il avait écrit en attendant Godot, et il avait gagné le prix Nobel pour le truc qu'il avait écrit en français. Et après, j'ai commencé à lire tous les autres, et j'ai je suis tombé sur la réponse qu'il a donnée quand ils ont lui demandé pourquoi vous avez changé la langue.
Mm-hmm.
Vous êtes irlandais, vous avez l'anglais. Et il a répondu, parce que j'ai senti le besoin d'être mal équipé.
Mm-hmm.
Et j'ai commencé à penser que oui, il faut être mal équipé pour écrire.
Pourquoi ? Parce comme un peu inconfortable.
Oui, c'est pour ça que je préfère faire des entretiens en français ou en anglais qu'en italien.
Pourquoi ?
Parce que je n'ai pas trop d'alternatives. Je vais directement au point. En italien, je peux bien... je peux éviter de dire la vérité parce que j'ai des alternatives. En anglais et en français, que ce sont les langues que je parle... J'ai pas d'alternative et je suis plus efficace. Je me sens plus sincère et c'est pour ça.
Mais vous écrivez en italien, néanmoins.
J'écris en italien parce que je suis pas Beckett. Et je l'ai découvert tout de suite. Mais je ne peux pas continuer. Je vais continuer.
Qui est cette fameuse phrase, en effet.
C'est le mot que, pour moi, représente mon idée d'héroïsme. L'héroïsme quotidien, parce que n'importe qui, tout le monde, à un moment donné de sa vie, il dit « je ne peux pas continuer ».
Et je vais continuer.
Et si il va continuer, et beaucoup de fois il va continuer, ça c'est l'acte d'héroïsme que je veux raconter dans mes livres. On peut dire que j'ai toujours écrit les mêmes livres. J'ai changé d'histoire, j'ai quand même changé... Mais l'acte que je voulais représenter, dramatiser, c'était l'acte de continuer quand on ne pouvait pas.
Mais comme une forme de persistance dans la vie, comme une façon d'insister, il y a aussi une phrase de Beckett à qui on demande « mais pourquoi vous écrivez au fond ?» et il dit « bon à rien d'autre ». Il y a vraiment aussi l'idée
bon
que...
Bon qu'à ça.
Bon qu'à ça, oui. Donc il y a aussi l'idée de quelque chose qui persiste, quoi, qui insiste.
Oui, c'est une idée. Il était, il était irlandais.
Mm-hmm.
Et il était vraiment beaucoup... il était très... pris par la culture chrétienne et catholique. Il n'était pas croyant, mais la persévérance, c'est la grande
enseignement.
Enseignement, la virtu, comme on dit, que les chrétiens doivent apprendre de la figure de Jésus et des grands saints.
Persévérer.
Comment tu as fait ? J'ai persévéré. Mmh. Et il était le champion de la persévérance, n'importe quelle persévérance. Il ne changeait jamais. Et j'ai lu un tout petit passage de la biographie, de l'autobiographie de Peggy Guggenheim. Il était d'une beauté irrésistible. Mm. Elle voulait lui. Et elle l'a emporté dans sa chambre à l'hôtel à Venise.
Elle a emporté quoi ?
Elle a emporté Beckett.
Ah.
Et Beckett, il est allé là, il s'est assoyé sur le fauteuil, il est resté toute la nuit assoyé sur le fauteuil. Il n'a bougé pas, elle est allée se coucher, elle a dormi, et le matin, elle l'a trouvé comme ça, là. Il avait persévéré. Sa position, c'était là, et il était resté là.
Est-ce que vous êtes un lecteur persévérant, Sandro Veronesi ? Est-ce que vous êtes du genre à insister quand un livre vous résiste ? Est-ce que vous restez dans les textes ? Lecteur ?
Je suis devenu. Je rappelle que quand je lisais Child in Time de Ian McEwan, et il y a à page 20 la disparition de la petite fille du protagoniste qui avait 4 ans. Ils vont au supermarché, il est là à payer et elle est disparue. Et il la cherche pendant 10 pages, il ne la trouve pas, et il rentre à la maison avec le truc qu'il avait acheté au supermarché, mais sans la fille. Et il doit le dire à sa femme. Et je disais, non, ça c'est trop. Ian McEwan, c'est un de mes auteurs préférés. J'ai dit non. Parce que je le connais, on ne le retrouvera jamais. Et je ne peux pas supporter ça. Et je l'ai quitté. Ma femme, d'alors, elle a persévéré. Elle m'a dit, Sandro, il faut que tu vas, il faut que tu lis. Et je lui ai dit, mais ça retourne la petite... Non, on avait notre premier fils qui avait 2-3 ans. non, mais il faut que tu persévères, il faut que tu lis.
Et
là, elle avait raison, parce que c'est un miracle, ce livre-là. Mais, enfin, j'ai trouvé un livre écrit, je ne rappelle plus, parce que ça s'est passé 30 ans, par quel auteur italien de Sicile, qu'il avait retrouvé la fille, qu'il avait écrit. L'histoire de la petite.
Alors c'est bon, on est tous sauvés. On est sauvés. Vous avez grandi dans un endroit où il y avait des livres ?
Pardon ?
Vous avez grandi dans un endroit où il y avait des livres ?
Oui, il y avait des livres. Mon père était ingénieur, mais il avait des livres et il avait toujours lu, il lisait. Et maintenant qu'il est mort, j'ai amené chez moi ses livres.
Tous ses livres ?
Oui, un peu pour mon frère, mais la majorité c'était pour moi, et j'ai eu du mal, parce que j'ai déjà beaucoup de livres, moi. Et alors, j'ai constaté que je suis grandi parmi les livres, parce qu'il y en a un millier.
Et vous aimiez lire ?
Oui, oui.
Et toujours aujourd'hui ?
Oui.
Vous traduisez de temps en temps ?
Oui, mais je l'ai fait quand j'étais jeune. C'était une bonne façon de gagner un peu d'argent et d'apprendre. Parce que
Qu'est-ce que vous appreniez, par exemple, en traduisant ?
Bon, j'ai traduit Malcolm Lowry et j'ai appris qu'on peut faire des phrases qui durent une page. Si tu es capable de contrôler
le rythme, la respiration.
Mais j'étais là, je disais... Mais, il ne va pas faire le point. Il ne va pas. Et j'ai pris qu'on peut le faire. Je n'ai pas traduit grand-chose. De petits papiers comme ça. J'ai traduit un seul livre important. C'est Fear and Loathing in Las Vegas, de Hunter Thompson. C'est un livre psychédélique, complètement fou, très amusant. De la contre-culture américaine. Alors, ça, je l'ai... Mais c'était plus facile à traduire. Il fallait avoir cognition de tout ce qui passait dans les premières années 70 en Amérique. Mais c'était pas facile de trouver toute la documentation. Malcolm Lowry m'a bien appris à n'arrêter jamais.
Persévérer
dans la page.
Qu'est-ce que vous diriez de votre pratique de lecture aujourd'hui ? Ça ressemble à quoi, vous, en tant que lecteur ? Vous lisez quoi ? À quel rythme ? Pourquoi ?
Je lis chaque jour, mais je dois mélanger les lectures que j'ai choisi de faire et les lectures que je dois faire. Parce que j'ai dit oui à la présentation d'un livre d'un ami. Et peut-être qu'il est un grand livre, mais je ne sais pas en avance. Et j'ai dit oui parce qu'on est amis, parce que... Et après, il me donne quelque chose à lire pour écrire un papier. Alors, je ne achète pas tous les livres que je lis. J'ai beaucoup d'hommages que je reçois à la maison chaque jour. Et j'ai du mal à maintenir la priorité des livres que j'achète parce que je le veux lire avec la masse des livres que me demande d'être lus et qui arrivent comme un cadeau et que, bon, ça me touche parce que c'est le travail d'un an, deux ans de l'écrivain qui m'en fait un cadeau. Et j'ai toujours l'impression que je lis peu. Et c'est vrai que l'année passée, une revue hollandaise faisait une enquête parmi les écrivains d'Europe avec la demande si un peu sinistre, si vous saviez que il ne vous reste qu'un an de vie, qu'est-ce que vous écririez ? Et j'ai lui répondu.
Écrire ou lire ?
Il demandait écrire.
Ouais.
Et je lui dis non, si je sais que j'ai... Je dois lire encore des chefs d'œuvre. C'est fini, écrire.
Ça ressemble à quoi en ce moment la vie littéraire, la vie intellectuelle en Italie ?
Pardon ?
Ça ressemble à quoi la vie littéraire, la vie intellectuelle en ce moment ?
Alors,
si vous deviez la décrire ?
C'est de l'amitié. Pour moi, c'est de l'amitié. Mais il n'y a pas les endroits... Quand je commençais, il y a 40 ans, 35 ans, il y avait...
Des endroits de sociabilisation.
Oui. On était un groupe de jeunes écrivains, peintres, poètes. On se voyait dans une galerie. Chaque jour, on allait danser. On était jeunes. Mais, enfin, on a commencé à se perdre, pas parce qu'on a grandi, mais parce que ce sont disparus... C'est disparu l'habitude de faire ça. On a fait des magasins online, on fait maintenant des réunions. Maintenant, on a fondé les Pen Italia, parce qu'il n'y avait pas. Et on fait les réunions par Zoom. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, maintenant, c'est une tentative de maintenir vivant les relations d'amitié littéraire avec l'amitié. le dîner à la maison, aller au cinéma ensemble. Mais quelque chose a été perdu, je crois, parce que j'ai connu la littérature, la tradition, la scène littéraire italienne du XXe siècle. Et j'ai connu les vieux grands maîtres,
Moravia, exemple. Oui, c'est ça.
Moravia, Chacha.
Peut-être qu'il y avait aussi l'idée, vous citez Moravia, peut-être qu'il y avait aussi l'idée d'être lié à une certaine presse, que l'activité littéraire, politique, intellectuelle se liait à des journaux. Peut-être que ça joue, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui.
Oui, je suis un garçon du XXe siècle, qui a grandi dans le XXIe, mais je suis formé comme ça, les journaux sont importants. Il me dit, mais ils ne comptent rien maintenant, ils ont perdu toutes les lecteurs. Mais pour moi, c'est important. Le Corriere della Sera, c'est encore, pour moi, très important, parce que je ne peux pas changer maintenant. Mais je prends acte que c'est changé. Maintenant, c'est plus facile d'avoir une connexion, c'est vrai. Mais je crois qu'il y a des choses que... il n'y aurait pas le surréalisme maintenant via Zoom, c'est pas possible.
D'accord, mais peut-être que vous ignorez certains cafés ou caves ou galeries ou squats ou ZAD ou discothèques où le surréalisme italien de 2026 s'invente.
Je vois les jeunes, les jeunes écrivains, ils ne se rencontrent non plus. Ils font des trucs numériques, online.
Peut-être c'est un surréalisme online.
Non, non. C'est pas assez surréel.
On va parler de votre livre à vous, Septembre Noir, dans son titre français, paru aux éditions Grasset. Bah, juste après cette chanson-là qui, quand même, appelle l'été, la fin de l'été.
Quand vient la fin de l'été, sur la plage, il faut alors se quitter, peut-être pour toujours, oublier cette plage et nos baisers. Quand vient la fin de l'été, sur la plage, l'amour va se terminer comme il a commencé. Doucement sur la plage, par un baiser. Le soleil est plus pâle, mais nos deux corps sont bronzés. Crois-tu qu'après un long hiver, notre amour aura changé? Quand vient la fin de l'été, sur la plage, faut alors se quitter, les vacances ont duré. Lorsque vient septembre et nos baisers.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un mois de septembre à la double obscurité dans votre book club aujourd'hui. Si le titre de votre roman, Sandro Veronesi, titre français Septembre Noir, renvoie évidemment au nom du groupe terroriste palestinien qui fit irruption dans le village des Jeux Olympiques de Munich pour tuer des membres de l'équipe israélienne en 1972, c'est aussi ou surtout l'évocation du mois de septembre qui suivit l'été marquant du jeune Didjo. Il avait 12 ans et 4 mois et c'est un été qui ne s'oublie pas. Bien des années plus tard, celui qui s'appelle en réalité Luigi se remémore lentement de quoi étaient faites ces semaines chaudes et toscanes. Nous sélectionnons certains de nos souvenirs pour leur valeur symbolique, écrivez-vous. Nous les façonnons et les fixons dans notre mémoire avec une telle précision qu'ils deviennent l'emblème d'une époque de notre vie. Votre livre paraît dans une traduction de l'italien de Dominique Vitose aux éditions Grasset et on en parle avec vous, peut-être en mentionnant l'idée que dès le départ, et on va l'entendre dans un premier extrait, cet enfant qui est à la fois dans le présent de son expérience des 12 ans, mais aussi dans le présent de l'homme qu'il est devenu bien des années après et qui se souvient, mentionne que son père est avocat. Et dans les premières pages, et un peu plus loin, il va être beaucoup question de l'innocence. L'innocence de ce qu'on juge, mais beaucoup l'innocence de ce qu'on perd. Et de manière générale, ce mot-là, moi, il m'a semblé comme flotter au-dessus de votre roman, Sandro Veronesi. Est-ce que c'est un bon mot pour commencer notre conversation sur ce roman ? Oui. L'innocence.
Oui, vous avez raison, l'innocence. Alors, c'est un sujet que je... Quand j'ai fait un entretien, n'importe quel entretien, à un directeur de la photographie, parce que je le fais pour le Corriere, à Obama aussi.
Chic.
Une question, c'est qu'est-ce que c'est l'innocence ?
Ah ouais, c'est pas vrai.
Yeah, oui.
Et pourquoi ?
Je vais collecter. Parce que tout le monde a une idée différente. Il dit des choses parfois très intelligentes. Bien s'ils ne sont pas prévenus et ils
ne
sont
oui.
pas prêts, mais ce sont différents. Mmh. Alors j'apprends que l'innocence, c'est quelque chose de vraiment large, grande.
Et pourquoi ça vous intéresse tellement ce mot-là ? Vous voyez quoi derrière ?
Alors c'est long, mais...
non mais parce que c'est intéressant. Moi j'ai terminé le roman, je me suis dit, ah tiens, c'est ce mot qui clignote fort, et vous... Dans vos entretiens, vous posez cette question-là régulièrement.
Oui. Mais depuis longtemps. Mm. C'est pas récent. Ça fait 10 ans que j'ai fait toujours la même. Bon, alors, il y a... J'ai du mal à penser qu'on perd l'innocence quand on est frappé par quelque chose. Mais normalement, on dit comme ça. J'étais frappé en lisant un papier de l'écrivain norvégien très célèbre, comment s'appelle, Jo Nesbø, à lendemain du massacre, où il disait la Norvège a perdu son innocence.
Oui, mais bon, c'est aussi une formule.
J'étais pas d'accord. Elle avait, c'était encore plus innocent parce que les innocents étaient morts. Mais pour lui, qui est un écrivain des polars, et c'est souvent on trouve cette idée dans l'écrivain de polar, le coupable et la victime sont dans la même part de l'univers. Ce ne sont pas dans le bien et dans le mal. Être victime d'un crime, être victime d'un assassinat, c'est une perte pour toi, pas de la vie, mais de l'innocence. Et je rappelle que...
Vous, ça a à voir avec le fait d'être victime de quelque chose, de perdre son innocence.
Pour moi, ils sont innocents.
Oui, l'innocence, c'est proche d'être victime. Si vous deviez répondre à la question comme Barack Obama,
oui,
vous diriez ça.
C'est innocent, c'est lui qui n'est pas coupable du crime dont il est victime. Parce que parfois, on est victime de nos mêmes crimes ou les conséquences de nous. Mm-hmm. Mais quand tu es un garçon et tu n'as pas aucune possibilité de te protéger parce que la famille t'a promis de te protéger et tu es victime, tu ne perds pas ton innocence.
Tu restes innocent.
Oui, et peut-être, c'était mon idée, dans le mot de ce bonhomme, maintenant 60 ans, qui raconte l'histoire, il y a encore un peu d'innocence.
J'espère. Vous le reliez du coup à l'enfance, si je vous écoute aussi, Sandro Veronesi, ce mot-là d'innocence, il est lié à l'enfance pour vous ?
Non. Bien sûr, oui. Mais je rappelle que les innocents, les premiers innocents qui sont mentionnés dans le livre sont les clients de son père, qui sont des hommes. Alors c'est plus important pour
l'innocence du côté de la justice là.
Oui, l'innocence
du droit.
Être accusé d'une façon injuste. Je suis innocent, mais je suis là et je suis sous procès parce qu'ils m'ont accusé de quelque chose. Cette innocence, c'est sûrement une innocence.
Vous parliez aussi du poids de la religion ou de la, on va dire, de la culture religieuse sur Samuel Beckett en disant qu'il n'était pas croyant mais qu'il avait été façonné.
Ouais.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi de l'innocence ? Alors j'y connais malheureusement pas grand-chose, mais par exemple dans des scènes de sacrifice, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'innocence qui est porté par la religion chrétienne qui vous intéresse aussi comme motif ?
Ça peut être parce que je suis
vous aussi
grandi dans les écoles italiennes des années 60, alors il y avait l'empreinte catholique, mais c'était jamais un garçon ou un être humain, il était un animal. Il était le symbole de l'innocence, et c'était l'agneau. Mais peut-être que a contribué à créer cet intérêt que j'ai pour l'innocence. Mais ce que je dis, est-ce que depuis que j'ai commencé à étudier l'innocence, j'ai trouvé vraiment, il y a un petit film de Pier Paolo Pasolini où il y a Ninetto Davoli tout le temps, ça fait 15 minutes.
Oh là là, mais avec la scène de la fleur en papier.
Oui,
bah oui.
L'innocence est une faute, Il va chanter ça pour toute...
Il traverse les bagnoles,
oui,
il a
oui, c'est rouge. Émouvant, tu sais, mais l'innocence est une faute. Alors, on va grandir encore. Et c'est... Maintenant, je ne rappelle pas qu'est-ce qu'il a répondu Obama ou Giovanotti.
mais vous ferez un jour un recueil avec toutes ces, ces réponses.
Oui, peut-être.
On va écouter un premier extrait de votre livre traduit en français, Septembre Noir. Je rappelle que, puisque vous mentionnez Pasolini et qu'on n'a pas le temps de le faire, il y a eu un moment de votre vie où vous avez eu la chance d'habiter un ancien appartement de Pasolini, en tout cas de pouvoir taper des livres sur sa machine, c'est pas rien. Oui.
Mon père était avocat pénaliste. Il était le seul dans la bourgade où nous vivions, dont je vais maintenant donner le nom, et vous allez tous penser la même chose. Vinci. Mais Léonard n'a rien à voir dans cette histoire. Je préfère rappeler un autre fait lié à ma ville d'origine, pour moi plus important, même si personne ne l'évoque jamais. L'effondrement du pont, sur l'Arnaud, le 17 novembre 1966, quelques jours à peine après l'inondation qui frappa Florence et toute sa province. Plus encore que l'inondation elle-même, ce fut le premier traumatisme de ma vie. Le pont fut emporté par la rivière et, comme les agglomérations voisines, Vinci se retrouva coupé du reste du monde. Cet isolement dura plusieurs jours. Pas d'école, pas de catéchisme. Des familles furent séparées et ceux qui, comme mon père, devaient aller à Florence pour leur travail, étaient contraints de faire un long détour par des routes de montagne devenues dangereuses. J'entendais dire que cet effondrement était très grave, parce que le pont n'avait que 12 ans. Moi j'avais moitié moins, et 12 ans me paraissait beaucoup. Mais quand 6 ans plus tard, ce fut mon tour de m'effondrer, je m'aperçus qu'en effet 12 ans, c'est peu. Voilà pourquoi je me souviens si bien de l'époque de l'inondation et de la rupture du pont. Ce pont et moi avions le même âge quand nous avons été frappés. Lui par la nature, moi par les hommes. Et il s'agit d'un âge où certaines choses ne devraient pas arriver. Ni au pont, ni aux hommes. C'est trop tôt.
Nous sommes au tout début de votre roman, Sandro Veronesi, et donc il y a un parallèle entre ce pont qui s'effondre, le souvenir de ce pont qui s'effondre dans la ville natale de ce jeune homme et homme plus âgé, et puis l'effondrement psychique qui a été celui de ce petit garçon, plutôt adolescent, jeune adolescent, à l'âge de 12 ans. peut-être pour nous emmener aussi sur une piste qui est celle qu'on mentionne souvent quand on parle de votre écriture, c'est-à-dire votre formation d'architecture et votre passion pour la construction. C'est pas anodin de commencer un roman où on nous prévient que tout s'effondre et que ça, c'est évidemment, l'effondrement n'arrive jamais au bon moment. Il est toujours trop tôt pour que ça s'effondre.
Alors, quand j'étais étudiant, l'architecture, on a étudié dans un cours de composition un jeune architecte qui est maintenant, il a 80 ans, il était très jeune, qui s'appelle Franco Purini, qui faisait des projets des architectures, et il projectait aussi les bâtiments délabrés, la décadence et la fin. Il y avait des magnifiques tableaux à la fin des projets, c'était des projets exécutifs, alors, mais il y avait toujours la...
Comment ça va vieillir? Comment ça va
s'effondrer?
Comment
ça va être détruit par le temps? Et à ce temps-là, j'ai lu, par hasard, un entretien à Albert Speer, qui était l'architecte nazi de Hitler, qui dit dans cet entretien que Hitler avait lui demandé de l'architecture qu'elle soit belle aussi détruite. Alors je commençais à penser qu'il y avait une dramaticité extrême. J'avais pris la décision de Franco Purini de faire comme ça, peut-être un caprice, quelque chose comme ça. Et 30 ans après, je l'ai connu, Franco Purini, il est un grand. Et je lui ai posé la question, vous savez que Albert Speer, il ne savait pas. Mais il a dit, bon, mais c'est la chose la plus importante de ce qu'on bâtit, c'est la façon comme elle va disparaître, comme elle va s'évacuer.
Mais est-ce qu'il n'est pas tout à fait pareil de vieillir et d'être attentif à la manière dont le temps ou le vieillissement, selon qu'on s'intéresse à du bâti ou à des humains,
c'était la grande
patine.
Utopie. La grande utopie, c'était de contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler.
D'accord, mais là, ça s'effondre. C'est encore très différent. C'est quand même la survenue par les éléments naturels ou par le réel, pour un petit gars ou pour un pont, d'un truc qui leur tombe dessus, quoi. C'est vraiment l'événement. C'est ce qu'on appelle l'événement dans une vie.
Oui, c'est l'événement que pour l'architecture ne doivent jamais passer. Je rappelle que après les tours jumelles, il y avait beaucoup d'architectes qui disaient c'est pas possible. Il y a eu un attentat à la base parce que c'est pas possible.
Ah ouais.
On travaille parce que ça ne passe jamais. C'est pas possible. Et enfin, c'est possible, mais pour la pensée architecturale, c'est pas possible d'effondrer comme ça le pont, les skyscrapers, les bâtiments. C'est pas possible. Mais l'idée d'avoir un petit contrôle aussi quand les bâtiments s'écroulent, c'est l'utopie qu'il voulait. Et c'était la même utopie d'Hitler. Parce que il savait que la chose la plus importante qu'il aurait laissée, ça, c'est les messages qu'on prend de cette déclaration, c'était la destruction. Il savait qu'il laissait la destruction beaucoup plus que toutes les autres choses qu'il avait faites.
Est-ce que quand vous entreprenez l'écriture de ce roman, Sandro Veronesi, vous vous dites « je vais écrire un livre sur l'effondrement »
Non. Ce que je me dis, c'est toujours la même chose. Je vais écrire un livre sur l'acceptation. Ça, c'est le sujet que j'ai, c'est toujours le même sujet de mes livres, l'acceptation. Parce que, et je ne peux pas continuer, je vais continuer. Mais, enfin, ça passe, qu'il y a des thèmes dans la narration qui vient. Alors, parfois je le vois, parfois je le vois pas. C'est le lecteur, c'est les critiques qui le trouvent. Et ça va trouver de l'originalité, mais ça va trouver aussi de la banalité, parce que c'est un sujet qui a été déjà bien développé, et je n'avais jamais pensé à ça, mais le résultat a donné aux critiques, aux lecteurs, le droit d'y trouver quelque chose que j'avais mis, parce que s'ils le trouvent, il y a.
Et alors là, ce serait quoi? Ce serait accepter quelque chose qui s'est passé dans l'été de ses 12 ans pour cet homme? Ce serait accepter que le temps a passé? Ce serait accepter que la mort, sous toutes ses formes, percute la vie?
Donc, oui. Mais ce qu'il faut accepter, c'est la spécificité de ton destin. Ce qui passe à toi seulement. Et à toi seulement. Parce qu'il y a le péril de la question qui n'a jamais une réponse. Pourquoi à moi? Pourquoi à moi? Pourquoi à moi? Il n'y a pas de réponse à ça. Il faut aller avant parce que c'est la mort. Si tu restes là, tu ne peux pas continuer. Et alors, c'est là qu'il lui va raconter son petite histoire. C'est une petite histoire. Mais c'est la seule personne qui a souffert, qui a vécu cette expérience. En réalité, c'est pas vrai. Et à la fin, il le dit, il y a sa sœur, il y a sa petite sœur, qui a le même destin. Mais elle a 7 ans.
Oui, et puis de toute façon, probablement, sa petite sœur ne l'aura pas vécu exactement comme lui l'a vécu. Et puis, finalement, cet été-là, ils sont tous à le traverser. C'est-à-dire, la famille le traverse, ses enfants le traversent, les gens sur la plage le traversent, les gens sur les bateaux, sur la mer, et puis les gens de l'autre côté du monde aussi, puisque tout ça se passe pendant l'été 1972.
Voici le tout premier reportage que nous venons de recevoir de Munich. La situation est encore très confuse, et personne ne peut actuellement approcher le bâtiment israélien isolé par la police. Essayons d'y voir clair. Pour l'instant, ce qui est certain, c'est que vers 5h30-6h ce matin, un commando palestinien, fort de 5 à 10 hommes, a pénétré dans le village olympique en escaladant les grillages et les barrières. Puis les Palestiniens regroupaient les athlètes israéliens et les gardaient en otage. On parlait alors de 20 ou 27 otages. Ils seraient en fait 9. Les autres athlètes israéliens se seraient échappés. Prévenue par deux femmes de ménage qui avaient entendu des coups de feu, la police allemande cernait immédiatement le bâtiment israélien et isolait du monde le village olympique. Immédiatement, les policiers tentèrent de parlementer avec le commando retranché dans le bâtiment. Par radio, les fédayines envoyaient un ultimatum aux policiers allemands. En Israël, le gouvernement se réunit immédiatement, présidé par Mme Golda Meir. Il demande l'arrêt des Jeux olympiques, mais à Munich, M. Brundage préfère voir les Jeux continuer pour bien montrer que le sport et les Jeux sont en dehors de toute politique. Mais actuellement, les responsables des JO sont réunis pour décider d'une éventuelle annulation des Jeux. Pendant ce temps, les négociations entre les Palestiniens retranchés et la police continuent. Les Palestiniens donnent un nouveau délai jusqu'à 16 heures, dernière limite. Ensuite, ils exécuteront leurs otages, 2 otages par heure de retard. Voilà pour l'instant où l'on en est à Munich.
Et voilà ce que peut entendre le narrateur enfant de votre roman, Sandro Veronesi, le récit au loin de ces Jeux Olympiques à Munich et la survenue de cette terreur, de cette violence. J'entends aussi, moi, un écho très étonnant qui est que dans ce journal radio français, on dit les Jeux ne peuvent pas continuer, les Jeux doivent continuer, ce qui fait quand même un drôle d'écho sonore à cette phrase de Beckett que vous mettez dans tous vos romans, à savoir « Je ne peux pas continuer, je vais continuer ». C'est une toile de fond, cette violence politique dans votre roman, qui rejoint d'autres considérations politiques, peut-être plus italiennes. Qu'est-ce que vous en faites, finalement, de cet été 72 et de ce que ce gamin perçoit comme ça, de manière un peu confuse?
Alors, il y a quelque chose de spécifique dans la couverture journalistique italienne des Jeux Olympiques et du massacre, qui a beaucoup à faire avec le fait qu'un jeune garçon comme ça soit tellement frappé. Je ne sais pas en France, mais j'avais l'impression, quand j'écoutais la voix de journalistes, que ce n'est pas la même chose. Il y avait beaucoup de chroniques sportives là-bas. Et quand on a eu l'information qu'il y avait ça, il y avait à Rome le chef de l'information qui a commencé à dire « Alors, on va partir. » Et le chef du sport a dit « Pourquoi ? J'ai des journalistes là. Vous pensez qu'ils ne sont pas capables de couvrir un drama comme ça ? Si vous allez là avec le vôtre, je rappelle ici le mien. » Et il reste là à faire du sport aussi. Alors, ils ont laissé les chronistes du sport à faire la chronique de ça. Et c'était le voix que le garçon comme lui entendait chaque dimanche.
Des voix familières.
Les voix du sport, du football, les voix qui parlaient du sport et des Jeux Olympiques. C'était les mêmes voix qu'on aimait parce qu'on les connaissait bien, qui parlaient de ça. Et ça, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas emphatisé parce que c'est tellement spécifique italien que bon.
Mais c'est frappant.
Ah oui, c'est frappant parce que tu sens la voix qui te raconte chaque dimanche. Il n'y avait pas la télé, on pouvait suivre le football ou le cyclisme
par
la radio. Les mêmes voix qui étaient là pour les Jeux Olympiques.
Ils disent d'un seul coup l'horreur absolue.
Il y en avait un, je l'ai cité, qui était rentré avec l'écrit Italia comme s'il était un athlète, et il était dedans, et il faisait la chronique à la téléphone, il n'y avait pas les cellulaires, et il était dedans, et il disait, je vois les garçons palestiniens avec le cheval, et il était, c'est lui qui faisait le boxe. Alors, ça...
Tu te rendais compte habituellement de la boxe dans les JO.
Tu vois que c'est plus violent, parce que le même voix qui te racontait le rêve de ton enfance, le sport, tout ça, te raconte ce truc-là. Il faut admettre que ça parle à toi. Et toi, 12 ans, et tu n'avais aucune information.
Tu étais très protégé. Cet enfant commence par nous dire, jusque-là, j'avais encore 12 ans et 4 mois, et jusque-là, le monde autour de moi ne me violentait pas, j'étais préservée par mes parents. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui fracasse, en fait, cette protection-là parentale. Et puis, ça ramène aussi autre chose, Sandro Veronesi, cette idée de la radio, et de finalement, comme il ne peut pas échapper à cette nouvelle-là, à autre chose qui est la manière dont les enfants, les jeunes adolescents, essayent de percevoir le monde dans les conversations qui sont autour d'eux, écoutent les choses derrière la porte, enfin, tout cet effort grandissant et curieux de l'enfant et de l'adolescent qui déchiffre le monde des adultes. Et à l'inverse, la radio et les JO de Munich, il ne les déchiffre pas, ça lui arrive dans les oreilles et ça le fracasse. C'est de là l'effondrement, d'une certaine manière.
Oui, mais c'est vrai aussi que la radio, c'est de la voix. Et dans le roman, les expériences les plus frappantes, elles arrivent par la voix, pas par les images.
Vous parlez du manche-disque et du rôle de la musique, par exemple.
Oui. Ou bien, écouter au-delà de la porte, ce que ton père, ta mère se dit. Écouter par hasard ce que ta mère dit en parlant seule quand elle va changer son bikini. Il n'y avait pas trop d'images à cette époque-là. Pas trop. Pas comme maintenant. Les images, c'était très peu. Il y avait beaucoup de voix, beaucoup de paroles. Et la radio, c'était le triomphe de la parole parce qu'il fallait... imaginez, quand on parle de la chronique d'un match de football et on dit que...
Il remonte le terrain, il fait une passe à droite, il fait une passe à gauche.
Mais tu dois voir dans quelle direction, vers droite ou vers gauche. Il ne le dit pas. Et tout le voit. Alors, ça, c'est la grande participation personnelle que l'image t'enlève, parce que l'image, c'est objectif, tu peux pas...
Vous parlez du triomphe de la voix dans cet été-là pour cet enfant de 12 ans, et il y a aussi le triomphe des mots, en même temps qu'il découvre le désir amoureux, l'émoi sentimental. Il y a quelque chose de son rapport au mot, à la matérialité du mot, à la puissance de la poésie qui se développe aussi très fort. On écoute un nouvel extrait.
J'ai raison de me souvenir, de reconstituer. Plus j'avance et plus je réussis à voir le garçon que j'étais, et le voir vaut beaucoup mieux que le savoir, pour moi qui essaie de le raconter. Certaines expressions particulièrement heureuses disent tout en une ligne et le font voir. Par exemple, celle qu'emploie Thomas Hardy au début de Thèse d'Uberville pour définir son héroïne. À ce moment de sa vie, elle n'était qu'une coupe d'émotions que l'expérience n'avait pas teintée. Il utilise un verbe formidable, untinctured, qui signifie non teinté. mais aussi non éraflé, sans qu'on soit obligé de choisir entre ces deux sens, comme c'est le cas quand on le traduit. Parce que c'est vrai, c'est exactement ça, et on ne saurait mieux l'exprimer. Quand l'expérience s'abat sur cette coupe, elle la teinte, mais elle l'entame aussi, elle la fêle. Et c'est vrai, moi aussi j'étais comme ça. J'étais comme Tess Durbyfield.
Un extrait de votre livre « Septembre noir » où il est question de la mémoire et de la capacité de remémoration, mais dans un autre extrait, il est aussi question d'un jeu auquel joue ce jeune adolescent. Il choisit certains mots, il les écrit dans un cahier, il les répète à voix haute, inlassablement. Il y a quelque chose comme ça de l'idée d'un jeu secret et d'un jeu auquel il joue en cachette. Qu'est-ce qu'il découvre en plus de toutes ces choses-là, en plus de tous ces chocs pendant cet été, votre personnage Gigio, dans son rapport aux mots?
J'ai toujours amené avec moi, sans le citer, un passage qui est attribué à Paul Éluard, mais c'est pas par Paul Éluard. Il semble que ce soit de Troxler, cité par Paul Éluard, qui dit ça, qui dit « Il y a assurément un autre monde, mais il est dans celui-là. »
Oh, galère.
L'idée, c'était ça. Qu'il va découvrir l'autre monde dans son monde. C'était pas ailleurs, c'était là. C'était là où il se couchait, où il allait jouer à la mer, où s'il y avait un autre monde, il y avait un monde terrible, il y avait un monde aventureux, il avait l'autre monde comme rêve. Et c'était là, c'était dedans. C'est dans son petit monde, il y avait le grand monde. Et ça, je ne l'ai pas cité, parce que si je veux le citer comme Tess d'Averville, je vais le brûler. Tu le lis, tu dis bon, et tu vois.
J'ai bien compris.
Et alors, je ne l'ai pas cité, mais je l'ai toujours tenu de compte, parce que je voulais que ce qu'il disait, c'était la découverte de l'autre monde dans son monde.
Mais par les mots, dans le cas particulier, par la matérialité des mots, on a l'impression aussi, quand vous dites « il y avait un monde dans l'autre monde », qu'il le découvre d'un seul coup, comme s'il pouvait manier les mots comme de la matière, comme des cubes, comme un truc solide.
Mais je crois que c'est toujours comme ça, quand il y a la découverte. Parce que c'est de la matière. Mmh. Le monde, c'est de la matière. Mmh. Toi, dans le monde, tu es de la matière. Mmh. Et la première chose qui vient naturel de faire, c'est toucher. Mmh. C'est toucher avant encore de regarder. Quand tu es un petit garçon, tu vas toucher, non? Et ça, c'est la découverte du monde. Alors, la découverte d'un autre monde, c'est la même chose. Mmh. Et ça peut passer ou pas pendant l'adolescence. Mais ça passe. Ça passe quand tu es adulte. Ça passe, c'est toujours comme ça. Quand j'écris mon deuxième roman, troisième roman, La Force du Passé, c'était la découverte d'un autre monde, dans son monde, à l'âge de 35 ans. Parce que ça, c'est vraiment romanesque. C'est quelque chose qui va être partagé avec les lecteurs, bien s'ils n'ont pas vécu cette expérience. Parce que c'est facile à imaginer. La découverte d'un autre monde. Et après, il y a quelque chose que me remporte à Freud, qui est toujours un de mes étoiles. Qu'il avait parlé de... en Italie, a été traduite comme « il perturbante das unheimlich ».
L'inquiétante étrangeté.
Oui, l'inquiétante étrangeté. Que est référé à quelque chose de familial. Mmh. Quand tu vois ta mère, c'est ta mère, mais tu es un garçon et tu sens qu'il y a quelque chose vraiment d'inquiétant. Elle a son propre problème, sa propre intention. Alors ça, c'est vraiment très important pour les enfants quand on parle de cet âge-là, parce que j'ai calculé qu'à 12 ans, moi, je ne savais pas les significations de tous les mots que j'entendais. je devais inventer. À 12 ans, tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ces mots-là. Mais tu entends quelque chose quand même, quand on te parle, et où est-ce que tu vas trouver ce que te manque de ce mot? Et tu vas le trouver dans le non-verbal.
On va écouter la voix de Cathy, auditrice du Book Club. Elle a lu votre livre, elle en avait lu d'autres. Elle vous pose une question.
Bonjour le Book Club. Bonjour Sandro Veronesi. Je n'ai pas manqué de lire votre dernier roman. Il faut dire qu'après Chaos Calme et Le Colibri, c'est avec une très grande impatience que j'attendais Septembre Noir. Septembre Noir, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais j'avoue que ce n'était pas celui que j'imaginais. Ici, votre clin d'œil plein d'espoir et d'optimisme, c'est les oliviers qui vont ressusciter encore plus fort, malgré le gel de cette journée tellement noire pour Jeju. J'ai une petite question, cher Sandro. Vous ne pensez pas que le titre de votre livre peut surprendre vos lecteurs? Je vous remercie pour votre réponse.
Merci Cathy pour cette lecture et pour cette question. Alors le titre français, c'est Septembre Noir, mais le titre en italien, c'est La Nave di Teseo, c'est ça?
Non.
Ah bon?
La Nave di Teseo, c'est l'éditeur. C'est Septembre Nero.
Septembre Nero. Ah, c'était aussi Septembre Noir?
Oui.
Ah bah oui, bien sûr, c'est l'éditeur italien.
Oui, c'est l'éditeur.
Et alors Septembre Noir, Cathy vous demande, est-ce que vous pensez pas que vous allez perdre?
Non, alors il faut dire, on a pensé en Italie et on a pensé un an après en France, si... maintenir ce titre-là. Parce que quand j'ai commencé à écrire le livre, j'avais bien clair que le titre, c'était là.
Septembre Noir.
Mais c'était un an avant, un an et demi avant, le 7 octobre.
2023.
Et après ça, après le 7 octobre, et après la folie,
la folie
du gouvernement israélien, chaque jour, on s'est interrogé. Parce que ça changeait, hein. Ça changeait le sens du message.
Mm-hmm.
Bien si on parle une demi-page.
Absolument, c'est quelque chose de lointain.
Mais dans une librairie, tout le monde. Et finalement, on s'est répondu en Italie comme en France un an après, qui était encore plus grave la situation. Mais ça, c'est de la littérature. Ça compte si le livre est beau. Ou pas, si t'as nouille ou pas, le titre a été pensé avant.
Mmh.
Et c'est pas juste que la guerre, la violence, l'anti-littérature va changer quelque chose qui est innocente. Alors on l'a gardé.
On retombe sur nos pieds avec l'innocence. Le Book Club continue. À cette heure-ci, dans le Book Club, on tient un petit agenda. On essaye de donner des rendez-vous partout en France qui ont lien avec la lecture, avec l'écriture, avec les livres. Et on voulait faire un petit hommage à votre thèse, Sandro Veronesi, consacrée à Victor Hugo, et à la construction, et à la pierre, à l'architecture. À la suite de l'exposition sur Victor Hugo, décorateur actuellement présentée à la maison de Victor Hugo à Paris, où vous avez un peu traîné vos savates pendant quelques mois, il y a quelques années. Cette expo aura lieu jusqu'au 26 avril. S'inaugurera une prochaine expo le 11 juin, c'est dans longtemps, et ce jusqu'au 22 novembre 2026, qui s'appellera Une exposition, Hugo et l'architecture, de la pierre à la plume. Elle explorera les liens entre Victor Hugo et l'architecture en mettant en évidence la manière dont elle se déploie dans son œuvre littéraire et graphique. Église, cathédrale, château, noircissent ses carnets et donne sens à ses récits. À suivre donc à la maison de Victor Hugo à Paris.
France Culture, le Book Club. Marie Richeux.
À la fin du Book Club, on joue à un grand jeu qui s'appelle le grand jeu des pages musicales. On joue à chercher de la musique dans les livres. Alors, vous avez dit qu'il y avait dans ce livre-là et l'évocation de cet été 1972 un triomphe des voix. Il y a des scènes où ce petit gars découvre un manche-disque et puis il découvre la vie finalement en écoutant la musique. On va se quitter donc avec un extrait de votre texte. Est-ce que vous voulez nous dire un mot sur la place des chansons et de la musique dans Septembre Noir et dans vos romans, Sandro Veronesi?
Bon, pour tous les garçons des années 70 comme moi, la musique a été la révolution, a été ce qui a séparé les garçons de ses parents, parce que c'était pas compatible. Et alors, on a été obligés à trouver notre indépendance grâce à la musique que chaque semaine, arrivait. Le chef d'œuvre, parce qu'il y avait David Bowie, il y avait Bob Dylan, que nos parents ne pouvaient pas comprendre. Ça a été possible parce que la musique a été devenue industrie. Alors, avant, si aussi, c'était possible d'acheter les Led Zeppelin, tandis que dans les années 60, c'était une question plus métropolitaine, et parce qu'il n'y avait pas encore.
Là, ça pouvait arriver partout, d'une certaine manière.
Ça pouvait arriver partout, et ça a été le langage universel.
On se quitte donc avec un extrait de Septembre Noir dans la traduction de Dominique Vitoz. Le terrain où nous jouions n'existait plus. Tout le long de la route, dans la bande de déblais et de broussailles qui bordaient la Pinède, des chantiers d'immeubles avaient surgi. En nombre impressionnant. Ils étaient déserts, eux aussi. Et je m'aventurais au milieu de ces squelettes de ciment, entre des bétonnières, des planches en bois et des tas de terre. Une chanson de Cat Stevens, que nous avions traduite, Astel et moi, me traversa la tête, la plus belle. Celle que je pouvais écouter sans jamais me lasser, « Where do the children play ?» Elle parlait exactement de ce qui m'entourait. Désormais, ça ne me concernait plus, parce que j'avais grandi. Mais si, pour permettre aux gens d'aller en vacances à la mer, il fallait construire de cette manière, où les enfants iraient-ils jouer ? Je m'aperçus que j'avais vraiment grandi si je raisonnais de cette façon, et j'en fus fière. Mais ensuite, je pensais que tout le mérite en revenait à Astel, et je replongeais aussitôt dans la tristesse. Séparée d'elle, je n'étais rien. Je n'avais jamais rien été, et maintenant, je ne savais même pas où elle se trouvait. Building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Merci beaucoup, Sandro Veronesi, d'avoir été avec nous pour parler de Septembre Noir, votre roman traduit de l'italien par Dominique Vitoz et paru aux éditions Grasset. Vous serez ce soir à la Maison de la Poésie à Paris pour parler de votre livre. Son aujourd'hui, c'était Dali Yaha, à la réalisation Cassandre Puel. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Léa Weiss-Grus, Marianne Chassor, Garance Roubieux, Jeanne Aléos, Mathilde Wagman et Alexandre Alaï-Begovic qui animent toute la conversation sur le compte Instagram du Book Club France Culture. Animez-la aussi, franchement, on est toujours ravis de vous lire. And it seems that you can't get off. Oh, I know we've come a long way. We're changing day to day. But tell me, where do the children play?